Montre spirituelle aujourd'hui, en ce 18 octobre, c'est la fête d'un des grands évangélistes, un médecin, Saint Luc, auteur de cet évangile qui est le seul à raconter l'enfance du Christ, ce qui lui a valu bien des analyses et bien des remises en question. Et on a même remis en question au besoin que ce soit un dénommé Luc qui ait écrit cet évangile. Mais on analyse tellement les textes des évangiles de plus en plus que parfois, à tout lire ça, on se demande où on en est. Mais aujourd'hui, je préfère me maintenir dans une grande et saine tradition tout en relevant au besoin certaines questions qu'on peut se poser. C'est aussi la fête de quelqu'un qui a été un très grand missionnaire, ici même, au Canada, Isaac Jogg, si peu connu par les Québécois, si peu connu par les nouveaux Québécois, au point qu'ils en ignorent même le nom. Et pourtant, c'est un des personnages les plus courageux de toute notre histoire, et c'est au tout début du Canada, au début du XVIIe siècle, puisqu'il est mort, en 1636. Et alors, c'est aussi la fête de premier anniversaire d'un homme dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup, et qui est le père Claude Simard, un père de Sainte-Croix, qui est assassiné au Rwanda il y a un an, aujourd'hui même. Le temps passe très vite. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Vous savez que un grand journal communiste italien, le quotidien L'Unità, a publié l'an dernier, à pareille date, les évangiles du Nouveau Testament. Je ne sais pas si Le Devoir ou La Presse ou Le Journal de Montréal ferait ça. L'Unità, le quotidien italien, fondé par le grand théoricien du Parti communiste italien, Antonio Gramsci, a commencé le 16 novembre 1994 la publication des évangiles en disant dans leur journal communiste que les évangiles appartiennent à l'humanité tout entière. Je ne sais pas si on s'en rend compte aujourd'hui dans nos journaux de Montréal. Ce quotidien communiste, évidemment, en publiant les évangiles, a suscité bien des commentaires et quelques polémiques. Ils l'ont même reconnu en première page de leur journal, mais ils ont ajouté, en citant un ancien responsable du Parti travailliste anglais, Stafford Cripps, qui disait, et j'aime bien ces paroles de Stafford Cripps, responsable du Parti travailliste anglais, « La démocratie n'aurait pas pu apparaître sur d'autres bases que chrétiennes. » C'est très important, la démocratie n'aurait pas pu apparaître sur d'autres bases que chrétiennes. Alors, le 16 novembre 1994, dans les diverses éditions du journal L'Unità, eh bien, on a publié les évangiles de Saint-Marc et de Saint-Luc, dont c'est la fête aujourd'hui, avec une préface du cardinal jésuite Carlo Martini, archevêque de Milan. Cardinal remarquable. Je vous cite très brièvement un texte de Saint-Irénée de Lyon. Vous direz pourquoi Saint-Irénée de Lyon? Il a vécu il y a si longtemps, mais c'est le fondateur, je vous en ai déjà parlé, de l'Église chrétienne, de l'Église catholique en France, d'où la plupart d'entre nous venons. Nos ancêtres sont venus de France il y a des siècles et des siècles. Pour la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Et nous sommes donc redevables à Saint-Irénée de Lyon, de son enseignement. Et son enseignement au sujet de Saint-Luc, je ne vous en lis que quelques pages, est très beau. Il a écrit, il y a donc au moins 1500 ans. Saint Luc a été le compagnon inséparable de Saint Paul, son collaborateur dans la prédication de l'Évangile. Saint Luc lui-même nous l'apprend, non pour en tirer gloire, mais pour être fidèle à la simple vérité. Présent lui-même à tous les événements qui ont amené Luc à accompagner Saint Paul à travers la Grèce et jusqu'à Rome, et ayant pris part donc à tous ces événements, Luc nous les a transmis avec précision, où ça, non pas dans son évangile, mais dans les Actes des apôtres dont il est aussi l'auteur, hein. Donc, saint Irénée de Lyon dit présent lui-même à tous ces événements, y ayant pris part, Luc nous les a transmis avec précision. On ne trouvera chez lui ni mensonge, ni vantardise. Tous les faits relatés étaient évidents. Que Luc ait été le compagnon et le collaborateur de Paul, c'est ce que ce dernier affirme dans ses lettres, les épîtres de Paul. Voici le texte. « Démas m'a abandonné. Crescence est parti pour la Galatie. » Et Tite pour la Dalmatie. Luc seul est avec moi. C'est dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4. Et saint Irénée de Lyon conclut en disant, Luc ne s'est donc jamais séparé de l'apôtre. Il a reçu de lui la mission de rédiger cet évangile qu'il a annoncé avec lui. Qui rejette son témoignage refuse par le fait même l'évangile dont on prétend nous être le disciple. C'est un très, 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 très vieux texte. Et pourtant, on dirait qu'il a été écrit aujourd'hui. Hein? L'Évangile rapporte la mission des 72 disciples qui ont été envoyés par Jésus partout où il devait lui-même aller. Et cet Évangile a été choisi pour la fête de Saint-Luc, parce qu'on pense qu'il faisait partie de ce groupe des 72. Mais c'est seulement dans d'autres textes du Nouveau Testament que son nom apparaît et qu'il est possible d'approcher un peu plus de sa personnalité. Qui était-il, Luc? Mais Luc n'était pas juif. C'est un converti à cette religion nouvelle, d'origine juive, car c'est un grec. Il était originaire d'Antioche. On revient souvent à Antioche, hein, je vous en parle souvent d'Antioche, cette ville de Syrie. La Syrie qui est presque entièrement musulmane aujourd'hui, mais il reste encore des catholiques en Syrie, fidèles à leur foi. Et nous en avons ici à Montréal des catholiques syriens. J'ai même reçu chez moi hier Madame Rabat, qui est une syrienne catholique, et qui enseigne la religion dans une école et qui a eu la très bonne idée de mettre sur le tableau 91,3, les chiffres du poste de Radio Ville-Marie, afin que les enfants l'aient bien dans la tête. Et elle a mis en dessous 11h à midi, vie des saints, afin que les enfants puissent, avec un baladeur, écouter au besoin de 11h à midi, en s'assoyant quelque part dans l'école, cette émission que vous écoutez présentement. Quelle bonne idée. Si tous les professeurs de religion faisaient autant dans les écoles, les enfants seraient au courant, et beaucoup de jeunes aiment ça, ce genre d'émission, et bien d'autres émissions à Radio Ville-Marie. Et si nos prêtres, je m'excuse, parlaient assez souvent de Radio Ville-Marie en chaire le dimanche ou sur semaine. L'autre jour, je suis allé dans une église et distribuant des petits feuillets au sujet de Radio Ville-Marie. Je me suis rendu compte qu'une seule personne sur à peu près une trentaine connaissait l'existence d'un poste catholique à Montréal, alors que c'était une messe sur semaine. Des gens qui vont à la messe sur semaine ignoraient tous l'existence d'un poste catholique. Ils ne le savaient pas, personne ne le leur avait dit. Ils vivent seuls, ne parlent à personne, s'en retournent chez eux et sont seuls et s'ennuient. Quelle tristesse, hein? Faudrait qu'on en parle davantage. Faudrait qu'on annonce l'Évangile, hein? Qu'on fasse comme les 72 disciples envoyés par Jésus partout où il devait lui-même aller, comme on dit dans le texte. Donc, il était médecin. Luc, originaire d'Antioche. Il a rencontré saint Paul, à qui il doit peut-être sa conversion. Il s'est attaché à lui, puis il l'a suivi dans ses voyages missionnaires. Luc, qui est appelé le cher médecin par saint Paul, c'est comme ça que saint Paul, qui évangélise justement les païens, les non-juifs, appelle ce Luc qui vient des païens, le cher médecin. C'est un collaborateur de grande valeur pour saint Paul. Une tradition constante a vu en lui, d'ailleurs, l'auteur de ce troisième évangile et du livre des Actes des Apôtres, comme je vous ai dit, et qui, d'ailleurs, en est au fond comme le second tome. C'est comme si c'était un ouvrage en deux volumes, l'évangile et puis les Actes des Apôtres. Ça suit exactement les évangiles, et on peut appeler les Actes des Apôtres la première histoire de l'Église. Au fond, c'est la première histoire de l'Église, les Actes des Apôtres. Ceux qui n'ont pas lu ça, les Actes des Apôtres, lisez ça, vous allez voir, c'est plein d'aventures fantastiques. Mais vous en avez déjà lu des passages à la messe. Alors, ces deux œuvres montrent en Luc un écrivain cultivé, de grand talent. Et dans son évangile, il a mis l'accent sur quoi? Sur la miséricorde divine. C'est lui, le seul, à nous avoir transmis cette belle parabole de l'enfant prodigue, qui m'est si chère. Je vous ai déjà dit que j'avais adopté un enfant, un jeune homme très difficile, un itinérant, quelqu'un qui souffrait d'abandon, de détresse, de grande, grande détresse. Il ne savait ni lire ni écrire, pour ainsi dire. On avait la difficulté à comprendre ce qu'il disait. Et lui, mon pauvre Guy, aimait tellement, il est décédé l'an dernier, il aimait tellement la parabole de l'enfant prodigue, qu'il avait voulu que je lui encadre un dessin de Rembrandt, afin qu'il l'ait toujours chez lui, ce père qui reçoit son fils qui s'est mal conduit. Car il me disait toujours, « Ah, papa, je le savais que tu me pardonnerais, tu me pardonnes toujours. » Et je lui disais, « Mais oui, mais Dieu te pardonne aussi toujours. Viens à la confesse, il te pardonnera. » Il aimait bien aller à la confesse. Et si vous voulez lire un beau livre, justement, sur le retour de l'enfant prodigue, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un livre qui vient de paraître d'Henri Nouwen. N-O-U-W-E-N. N-O-U-W-E-N. C'est un très beau livre sur le retour de l'enfant prodigue. Revenir à la maison. C'est publié chez Bellarmine. Ici, à Montréal, chez Bellarmine. Ça a été publié en anglais tout d'abord aux États-Unis. Et l'auteur est d'origine hollandaise. Et c'est un catholique profondément convaincu. Et ça a été publié à New York, donc, au début. Et cette traduction magnifiquement éditée chez Bellarmine, je vous le recommande fortement. Je vous rappelle le titre, « Le retour de l'enfant prodigue » d'Henri Nouwen. Donc, Saint-Luc est le seul à parler de cette grande et magnifique parabole qui nous révèle que Dieu est toute bonté. Si on comprenait jusqu'à quel point Dieu est bon et Dieu nous aime, on penserait à lui en se levant, en se réveillant même la nuit. On n'aurait souvent que de penser que pour Dieu, pour ce cœur tout aimant de Dieu, Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ et qui manifeste tout son amour par cette dévotion au Sacré-Cœur où on voit ce cœur brûlant d'amour. Quand on aime, on a l'impression que le cœur brûle dans notre poitrine. Et nous serions, si nous étions vraiment convaincus que Dieu nous aime, toujours désireux de mieux faire et de mieux le servir. Et Saint-Luc est aussi l'évangéliste, justement, de l'exigence de Jésus-Christ pour celui qui veut devenir un véritable disciple. L'évangile dit de l'enfance aussi, celui qui raconte l'enfance de Jésus, sa naissance, etc. Il donne à penser que Saint-Luc a connu personnellement la Sainte Vierge et qu'il a reçu d'elle des confidences. Si cela vous intéresse, j'avais déjà fait à l'émission Rencontre à la télévision de Radio-Canada, émission qui a duré presque 20 ans, eh bien, j'ai Je vais interviewer René Laurentin, l'abbé René Laurentin, qui a écrit un immense bouquin. Et immense, vraiment, là. C'est une brique de 600 quelques pages. Pas facile à lire, mais très intéressante. Qui s'intitule « Les évangiles de l'enfance du Christ ». Vérité de Noël au-delà des mythes. Et c'est une exégèse et sémiotique et l'historicité, théologie. Alors je recommande ça à ceux qui sont avertis, ceux qui sont capables de lire des ouvrages énormes comme ça, là. Et autrement, n'achetez pas ça, c'est trop difficile. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des ouvrages sérieux, fort bien faits, qui sont très très documentés, et qui a sans doute été critiqué par une exégèse contemporaine, mais ça demeure que c'est un livre très, très intéressant. Les évangiles de l'enfance du Christ, par René Laurentin, publié chez Desclés et Desclés de Brouwer. Et alors donc, on peut se demander qu'est-ce qui est arrivé à Saint-Luc. On ne le sait pas trop pour le restant de ses jours. D'ailleurs, dans les premières années du christianisme, on s'intéresse pas toujours à la fin de la vie des personnes dont on parle. Dans les images, on représente souvent Saint-Luc comme sous la présence, le dessin d'un bœuf. Hein? Vous savez ça, que les quatre évangélistes, on les représente l'un comme un aigle, l'un comme un jeune homme, l'autre comme un bœuf, etc. Et alors, c'est une allusion à la célèbre vision d'Ézéchiel, hein? Au premier chapitre d'Ézéchiel. Parce que Saint-Luc commence son récit de l'Évangile en montrant le père de Saint-Jean-Baptiste, le prêtre Zacharie, qui officie dans le temple de Jérusalem, où justement les bœufs étaient offerts en sacrifice à l'époque. Les Juifs offraient des bêtes en sacrifice. Ce qui est conservé aujourd'hui chez les musulmans, qui offrent encore des sacrifices en quantité industrielle, des animaux en Arabie Saoudite, c'est absolument fabuleux. Des centaines de milliers de bêtes qui sont offertes à Allah. Luc est devenu, d'autre part, je le signale en passant, le patron des peintres, à cause d'une tradition qui n'a aucun sens. C'est rapporté par Saint Jean Damascène, qui prétend qu'il y avait à Constantinople autrefois une icône de la Sainte Vierge qui serait disparue, et qui aurait été l'œuvre de Saint-Luc. Il y a même des icônes, j'en ai déjà offert à plusieurs personnes, des reproductions, où on voit Saint-Luc qui fait le portrait de la Sainte Vierge. Alors, quoi qu'il en soit, il est certain que Luc nous a laissé dans son évangile un merveilleux portrait de Marie, de la Mère de Dieu, et que nous ne cesserons jamais de l'admirer. Et il est fêté le 18 octobre, le même jour, chez les chrétiens orthodoxes. Nous revenons à la rencontre spirituelle, et cette fois-ci, avant de vous parler de Saint Isaac Jog, je vous en parlerai durant la deuxième demi-heure, je voudrais vous parler de ce saint tout récent qui est décédé l'an dernier. Je l'appelle un saint avec toute réserve, hein. Il est évidemment pas canonisé, il ne le sera probablement jamais, malheureusement. Mais espérons, c'est jamais un jour. Et dans la revue Orient, c'est une revue missionnaire publiée par les Pères de Sainte-Croix. On peut s'abonner en téléphonant à 731-6231. C'est une petite revue très intéressante. 731-6231. Et le père Marcel Deschenaux, qui s'occupe de la rédaction de cette revue depuis des années, a fait un très beau numéro qu'il a publié en janvier-février dernier au sujet du père Claude Simard, tué au Rwanda il y a exactement un an aujourd'hui. Je vous en avais déjà parlé au mois de mai, mais l'émission était peu connue, et peut-être qu'à peu près personne, d'ailleurs les Pères de Sainte-Croix ne m'en ont jamais parlé, d'avoir consacré une grande partie de l'émission à leur confrère, le père Claude Simard. Et le texte du père Marcel Deschenaux au début de cette revue est vraiment très bien fait. Il disait que c'était une surprise, une tristesse, une désolation, un serrement de cœur. Consternation, stupéfaction. Voilà quelques-uns des mots, écrit le père Deschenaux, qui furent employés à l'annonce de la mort tragique du père Claude Simard, dans sa paroisse de Rouyenzi, au Rwanda, en octobre dernier. Après 29 années d'une présence apostolique tellement efficace dans ce petit pays au centre de l'Afrique, le Père Simard est l'une des nombreuses victimes de cette horrible guerre civile. L'une des pires des derniers siècles, hein? Souvenez-vous. Et le Père Deschenaux ajoute, nous pensions bien qu'avec le début de l'automne, les massacres avaient pris fin et que le Père Claude Simard comptait s'en tirer sans trop de dommages. Il apparaît comme un témoin privilégié d'une charité profonde qui va jusqu'au don de sa vie pour ceux qu'on aime et d'une espérance qui demeure convaincue que l'amour triomphera de la haine. Et ce ne sont pas des paroles vides. Hein. Claude Simard est né le 27 septembre 1933 à Roberval au lac Saint-Jean. C'était le dernier de 8 enfants. Et lui survivent 3 sœurs et son frère Gilles. Après ses études élémentaires à Roberval, il a entrepris son cours classique au collège de Saint-Laurent, ici à Montréal. En septembre 1947, et le père Deschenaux dit qu'il avait été son professeur de la première année. Il dit, « Je me souviens qu'au mois de juin 48, tout juste avant le début des vacances d'été, j'avais demandé à chacun des élèves d'écrire sur un bout de papier ce qu'il comptait faire plus tard. J'ai conservé ces papiers et Claude avait mentionné « prêtre ». Tout jeune, un prêtre. Pas étonnant donc de le voir prendre le chemin du noviciat, des pères de Sainte-Croix après la classe de rhétorique vers l'âge de 18 ans, en août 53. Une année avant son ordination, il écrivait « J'ai toujours eu à cœur les problèmes comme celui de la misère dans le monde ». Il a été ordonné prêtre le 27 septembre 1959. Il a commencé son ministère pastoral l'année suivante à l'oratoire Saint-Joseph. Puis ensuite, on le trouve, peu après, préfet de religion au Collège Sainte-Croix, dans l'Est de Montréal. C'est aujourd'hui le cégep Maisonneuve. Hein. Puis dès ces années-là, il a songé à une vie de prière plus intense. Puis il a fait une rencontre fortuite avec l'évêque de Butare au Rwanda. Ça l'a amené à demander à partir pour l'Afrique, afin d'y être à la fois ermite, disait-il, et missionnaire. C'était vraiment un mystique. Hein. Il arrive au Rwanda en septembre 1965. Il passe 3 mois d'acclimatation avec un prêtre africain. Et puis, durant ce temps, il pouvait écrire le 12 novembre 1965, « Mon désir profond, oui, mon désir profond et enraciné en mon cœur, c'est de répondre jusqu'au bout fidèlement aux exigences de sainteté que me propose Jésus-Christ qui a allumé ce grand feu en moi. » Alors le 9 juin 66, il écrira après 3 mois à Kuroura, « J'ai entrepris en janvier le stage de langue. » Et voilà, il passera ensuite un an comme responsable d'une nouvelle paroisse. Puis là, il commence sa vie d'ermite missionnaire. Il reste là 20 ans à Kiramrambogo. Et puis, il écrit en 68, « Prière contemplative, études, travail manuel, contact fréquent avec les gens, quelques heures de ministère sacerdotal, voilà les principaux aspects de la vie cachée que je mène ici. » Et dernièrement, depuis 4 mois environ, après réflexion et prière, j'ai décidé, face à l'immense sous-développement, de prendre certaines initiatives, et c'est ainsi que nous avons aménagé une route et construit un pont avec l'aide financière de mes beaux-frères. Alors il travaille, hein? Il dit, mes moments les plus heureux sont ceux où dans la prière contemplative, je m'efforce d'être attentif et d'accueillir le bien-aimé au fond de mon être. Oui, j'ai offert ma vie à Dieu pour que nous renaissions tous à une vie nouvelle, c'est-à-dire à une authentique sainteté. Et en 87, le père Simard est devenu responsable d'une paroisse, collabore au noviciat ouvert, les frères de Sainte-Croix. Et malgré des invitations à quitter au moment de la Révolution, il décide de rester sur place. Et dans la nuit du 17 au 18 octobre de l'an dernier, des gens ont vu une voiture arriver à sa maison vers 10 heures le soir et plusieurs personnes en descendre, des soldats de l'ONU, ont découvert son corps et ont communiqué la nouvelle. Il a été inhumé dans sa paroisse, en Afrique, au Rwanda, en présence des prêtres de la région. Et Radio Vatican, l'agence de presse Fides, la congrégation pour l'évangélisation ont publié des communiqués et le monde a été épouvanté de la mort de cet homme de façon si tragique, le père Claude Simard de la congrégation de Sainte-Croix. Bon. De retour à Rencontre spirituelle, au microphone Raymond Beaugrand-Champagne. Et j'ai le plaisir maintenant de vous parler d'un saint que j'ai appris à connaître au collège Brébeuf quand j'ai fait mes études chez les Jésuites, c'est saint Isaac Jogues. Saint Isaac Jogues, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui du décès, quand il sera tué d'un coup de hache, le 18 octobre 1646. Vous savez, je vous ai dit que très peu de gens connaissent ces grands saints de notre histoire. Mais même en France, il y a peu de Français qui connaissent toute cette épopée missionnaire qui s'est écrite ici, au Québec, dans toute cette Amérique du Nord, qui nous appartenait à l'époque. On revient toujours sur les paroles, là, ça valait pas la peine de se battre pour quelques arpents de neige. Tout ça me fatigue. On oublie tout ce que les Français ont fait ici. Tout ce que nos ancêtres ont fait. Tout ce que ceux qui ont établi ce pays ont fait dans le grand courage qu'ils avaient. Combien ignorent, n'est-ce pas, les exploits des grands découvreurs du Mississippi? Marquette, Cavalier de La Salle, Navirandrie, etc. Je vous ai parlé de Mère Diouville, Sainte Marguerite Diouville, dont le père, Christophe, était un compagnon de la Vérandrie. Son frère, qui s'appelait aussi Christophe, en a fait autant. Mais on oublie surtout, et c'est ça que je trouve pénible, la grande épopée mystique des religieuses et des missionnaires qui ont renoncé à leur patrie, la France, pour aller porter au Canada, ici, cette lumière du Christ, puis créer une nouvelle France. Qu'on pense aux Ursulines, les hospitalières de Saint-Joseph, les Récollets, ou si on veut les Franciscains, les Sulpiciens, qui ont au fond fondé Ville-Marie, les Jésuites principalement, qui sont en train de disparaître, semble-t-il, à moins qu'il y ait un retour de vocation, et que des jeunes se rendent compte que la vie mérite d'être vécue de façon fantastique. C'est une façon, ça. Qui, ici donc, au Canada, au Québec, hein? Qui parmi les néo-québécois connaissent cette histoire? On ne la leur a pas apprise depuis qu'ils sont arrivés ici. On en parle si peu sur les ondes ici et là. Heureusement, à Radio Ville-Marie, il en est question. Et j'espère que vous êtes nombreux à écouter ces belles émissions qui vous racontent ces exploits fantastiques. Les premiers établissements français ont suivi d'assez loin la découverte de Jacques Cartier en 1534. Et à la fin, saviez-vous ça, à la fin du 16e siècle, donc dans les années 1500, il y avait quelques colons qui étaient venus, et c'était des protestants, des calvinistes pour la plupart, qui se sont installés sur les côtes de l'Acadie, oui, et qui avait été suivi bientôt par des missionnaires. Mais ces calvinistes, pour la plupart, sont disparus. Et une très grande partie sont devenus catholiques, ou sont retournés en France. D'ailleurs, l'essai des calvinistes n'a pas été très très heureux. Il a fallu attendre la nomination de Samuel de Champlain au poste de gouverneur de la Nouvelle-France pour assister vraiment au démarrage. On peut penser en 1604, n'est-ce pas? Il y a près de 400 ans. La fondation de Port-Royal qui a été restaurée, hein, c'est à visiter. Mais c'est grandement en anglais aujourd'hui tout ça. Et en 1608, mais en remontant le fleuve qui avait été baptisé Saint-Laurent par Jacques Cartier, je le signale pour les gens qui ne seraient pas au courant, c'est de là que ça vient, le nom de Saint-Laurent. Champlain a repéré ce magnifique promontoire qui s'avançait dans le fleuve. Il formait comme un type d'étroit, ce Québec. Hein. C'est là qu'il a fondé cette ville de Québec qui est si belle et qui a grandi modestement. Elle a été prise par les Anglais en 1629. Là, des Jésuites et des Récollets, des Franciscains, avaient déjà évangélisé le pays. Et heureusement, quelques années plus tard, par le traité de Saint-Germain, en 1632, le Canada a été remis aux Français. Et la religion catholique a pu se répandre. Ici, les Jésuites sont revenus. Et grâce à l'appui du cardinal de Richelieu et du grand courant réformateur là, qui a soulevé la France catholique sous Louis XIII, eh bien, l'évangélisation du Canada a repris de plus belle. Et c'est là que les Jésuites ont fait des choses absolument phénoménales. Mais qui était cet Isaac Jog? Dans le dernier numéro de cette petite revue, qui est pourtant très bien faite, revue populaire, la revue Sainte-Anne, il y a un très bel article du père Samuel Baillargeon sur Isaac Jog. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. J'ai lu beaucoup, beaucoup de choses sur lui. Et je m'inspire donc de ce texte. Isaac Jog était originaire d'Orléans. Ça vous rappelle Jeanne d'Arc, hein? Il perdit son père alors qu'il était en bas âge. Il étudia au collège de Rouen. Et à 17 ans, il est entré, oui, à 17 ans, au noviciat de la Compagnie de Jésus. C'est jeune, hein? Mais c'est pas si jeune que ça, finalement. Et là, il a suivi les étapes habituelles de la formation des Jésuites. Il a fait sa philosophie à la flèche. Il a enseigné les lettres, les humanités à Rouen. Jeune jésuite, il n'était pas prêtre encore. Pendant 4 ans. Il a fait sa théologie finalement au collège de Clermont. Il a été ordonné prêtre en 1636, donc 10 ans avant sa mort, à 29 ans. Il est mort à 39 ans. Ces grands saints souvent sont morts si jeunes qu'on se dit qu'est-ce qu'on attend nous-mêmes. Il avait demandé d'être envoyé dans les missions de la Nouvelle-France. Sa demande a été acceptée, alors il a quitté la France. Le 8 avril 1636, tout de suite après son ordination, en compagnie du futur Saint Charles Garnier, cet autre jésuite, et après escale à Miscou et à Tadoussac, il est arrivé à Québec le 2 juillet. Il a écrit « Il est malaisé de trouver une joie plus surabondante que celle que j'ai sentie en entrant en Nouvelle-France ». Je me souviens de mon premier voyage en Europe qui avait été très long, 9 mois. Mais quand je suis revenu, j'avais senti ça. Le retour au pays, hein, mon Dieu, que ça fait donc du bien. Et le 11 septembre, il était déjà en Huronie, chez les Hurons. Mais il était arrivé épuisé et malade de la fièvre. Il était même près de la mort. Et là, la maladie qu'il avait, ça s'est répandu, c'est une contagion. Les autres missionnaires l'ont attrapé. La résidence des pères est devenue une sorte d'hôpital. Mais l'épidémie s'est répandue bientôt dans toute la Huronie. Ils étaient peut-être 2000 Hurons. Et ce fléau a failli compromettre l'existence même de la mission, hein? Parce que les sorciers, oui, les sorciers, ça existait. Il faut pas cacher les vérités, hein? Je regrette, je veux pas insulter nos Amérindiens. J'ai un peu de sang amérindien. Et je crois qu'il faut quand même regarder les choses en face. Les Français, il y a des milliers d'années, avaient leurs sorciers, et même en France aujourd'hui, ça existe encore des sorciers. Saviez-vous ça? J'ai déjà fait une émission sur cette question à la télévision de Radio-Canada et les gens étaient stupéfaits. Il y a des sorciers en France, imaginez. Donc les sorciers ont tenté en vain de conjurer le mal qui se répandait. Ils ont répandu le bruit que les missionnaires en étaient la cause. Dans un sens, c'était vrai, c'était des microbes, mais c'était pas voulu, hein. Alors les jésuites ont vécu dans l'incertitude. Ils étaient exposés à être abattus par des fanatiques qui étaient très superstitieux. Puis là, ils se sont recommandés au Christ, à Jésus. Et finalement, le calme est revenu avec la cessation du fléau. Et là, on venait d'ouvrir de nouveaux postes missionnaires. Le père Jog, Isaac Jog, il a été envoyé. Il a été envoyé à Tehananthitaye en 1637, dans la résidence Sainte-Marie 2 ans plus tard. Il est allé chez les Pétuneux avec Saint-Charles Garnier en 1640. Et à l'automne 1641, 1 an avant la fondation de Ville-Marie, de Montréal, il s'est rendu au Sault Sainte-Marie, à l'extrémité du lac Huron. Là, 2000 Amérindiens les accueillirent chaleureusement et à son retour à Sainte-Marie, eh bien, le supérieur a invité le père Jog à se rendre à Québec pour chercher du secours, puis pour chercher aussi du ravitaillement. Et là, le voyage était très périlleux parce qu'il y avait des patrouilles iroquoises, là, les Mohawks, sur le Saint-Laurent. Alors, les missionnaires ont quitté la Huronie le 2 juin 1642, c'est au moment, n'est-ce pas, de la fondation de Montréal, qui a été fondée quelques jours plus tôt, au mois de mai. Ils sont arrivés à Trois-Rivières au début de juillet. Au début d'août, Mais une flottille de canaux, là, des Corses, retournaient en Huronie avec Saint-René Goupil, avec Guillaume Couture, c'est un nom qu'on voit aujourd'hui, Guillaume Couture, et plusieurs Hurons. Ils furent surpris par un groupe d'Iroquois qui s'était embusqué sur les rives du lac Saint-Pierre. Et là, ont débuté les tortures, des coups de massue, l'arrachement des ongles. Il se fit ensuite un long voyage vers l'Iroquoisie, au pays des Iroquois. Et quand on voyageait par les voies d'eau, là, mais les prisonniers étaient ligotés au fond des canaux. Quand on avait à faire des trajets à pied, ben on les chargeait de lourds bagages. On envoya d'ailleurs un groupe de Mohawks et on les fit défiler entre deux haies pendant que les coups pleuvaient sur les missionnaires. On voit ça dans un film que vous avez peut-être vu, Robe Noire. Je vous en ai déjà parlé, ce film qui a été fait par le Canada et l'Australie en 1991. C'est un film en couleur magnifique. Hein? C'est d'après le roman de Brian Moore. Et on y voit Lothair Buteau dans ce film, qui joue admirablement bien. Il y a aussi François Tassé, Jean Brousseau. C'est au temps de Samuel de Champlain. C'est un jeune père, le père Laforgue, qui est envoyé en mission sur la rivière du Saguenay, puis il tente d'atteindre un campement Huron avant de l'avenue de l'hiver, et pour lui servir d'interprète, bien Laforgue amène avec lui un jeune menuisier français. Celui-ci a tôt fait de s'amouracher de la fille du chef algonquin, chargé de protéger Laforgue, que tous se surnomment d'ailleurs Robe Noire, puis en cours de route, les membres de l'expédition tombent aux mains des Iroquois, ce qui compromet dangereusement la mission du jeune jésuite, et le film est magnifique. C'est une histoire, simplement, mais c'est une histoire qui est basée sur des faits concrets que je suis en train de vous raconter. Et alors donc, on a traversé le lac George, le lac George, si vous préférez, et il restait 4 jours de marche pour arriver à Osernon. Et les prisonniers, ils sont arrivés complètement exténués le 14 août. Ce fut à nouveau la haie de la mort, n'est-ce pas? Cette espèce de haie, comme dit une haie de cèdre, si vous voulez. Alors, les Amérindiens qui se placent de chaque côté, là, et qui reçoivent les arrivants, puis qui les battent. Quelques Hurons ont été mis à mort par les Iroquois. Mais le père Jogues et les Goupil, René Goupil, ont été attribués comme esclaves à des familles Mohawks. Et après 6 semaines, leurs blessures étaient cicatrisées. Après 6 semaines. Là, ils ont retrouvé un peu de liberté en circulant dans le village. Ils se rendaient sur la colline de la prière, comme ils disaient, pour méditer ensemble et réciter le chapelet. Et là, le père Jogues avait été adopté par une Amérindienne qu'il appelait sa tante. Une Amérindienne qu'il considérait comme sa tante. Et là, un climat de sympathie s'est établi avec elle et les membres de sa famille. Et René Goupil avait été attribué à une famille plus hostile, lui. Il venait de signer, de faire un signe de croix sur le front d'un enfant, quand le grand-père, celui qu'on appelait le grand-père, a demandé à un de ses neveux d'exécuter René Goupil. Alors il était abattu d'un coup de hache, alors qu'il venait de réciter le chapelet avec le père Jogues. C'est terrible, hein? Terrible. Là, le père Jogues est tout seul à porter ce poids de la captivité. Il a vécu cette vie-là pendant 13 mois, imaginez, 13 mois captif comme ça, par des gens qui étaient vraiment barbares. Hein? Et le plus pénible, pour lui, c'était l'hiver, il n'avait pas de vêtements chauds. Et il devait accompagner les membres de sa famille à la chasse ou à la pêche, celle qu'il considérait comme la tante, sa tante, là. Mais il pouvait consacrer de longues heures à la prière, et sur plusieurs arbres près de Cernunon, il avait gravé le nom de Jésus. Il allait souvent prier en silence, sous leur feuillage. Et là, les Hollandais de Fort Orange avaient appris qu'un prêtre français était captif à Osernon. Et les Hollandais étaient des protestants à ce moment-là. et le commandant Van Corleer avait offert de le racheter, mais les Mohawks refusèrent. Et là, en août 1643, on était allé pêcher sur la rivière Hudson, ou Hudson, près d'Albany. Et sur le chemin du retour à la bourgade, le père Jacques se trouva par hasard seul, près du fort Orange des Hollandais, là. Et les Hollandais le virent et l'invitèrent à entrer. Et après de longues hésitations, le père Jacques a accepté, et celui qui réussit à vaincre ses hésitations, ce fut le pasteur John Megapolensis de l'Église réformée de Hollande. C'est de l'écuménisme, ça. Il l'a pris en charge, il l'a conduit à un navire ancré près du port. Il l'a restauré, il lui a donné de bons vêtements. Il a été conduit à New Amsterdam. Ça vous dit quelque chose, New Amsterdam? C'est Manhattan aujourd'hui. New York. Et dès qu'il put le faire, bien, le gouverneur Kieft lui a trouvé une place sur un navire, en partance pour l'Europe, un navire hollandais. Et là, les Mohawks étaient frustrés du départ de leurs captifs. Les Hollandais les ont dédommagés en leur donnant à peu près $300. Le 5 novembre 1643, le père Jacques partait pour la France. Il y arriva à temps pour célébrer la fête de Noël. Il est entré dans une église, il a pris sa place dans la file de ceux qui attendaient pour se confesser. Puis il a reçu la communion, tout simplement, au cours de la messe. Depuis 16 mois, il soupirait après cette consolation. Quand on a soif de recevoir l'Eucharistie, ça brûle. Je me souviens d'être allé en Grèce où je ne pouvais pas communier, les orthodoxes ne voulant pas me donner la communion. Sur une île, j'ai fini par partir au bout de quelque temps. Je n'en pouvais plus. On a soif de communier. Et le 5 janvier 1644, Isaac Jogues a frappé à la porte du collège des Jésuites de Rennes, en Bretagne. Et là, il a insisté pour rencontrer personnellement le supérieur. Et le supérieur se préparait à revêtir les ornements liturgique, là, pour dire la messe. Mais devant l'insistance du portier, il finit par se rendre au parloir. Il a entendu Isaac Jacques, qui ne connaissait pas, lui dire « J'arrive de la Nouvelle-France ». Alors tout de suite, on avait tellement entendu parler d'Isaac Jacques en France par les relations des Jésuites, hein, les textes, qu'il faut lire, ah, c'est beau. Alors le supérieur dit « Connaissez-vous le père Jacques ?» Et le bon père Jacques répond, « Mon père, il est bien vivant, et c'est lui qui vous demande de le bénir. » Et ému jusqu'aux larmes en voyant ses mains mutilées, oui, les mains mutilées s'étaient fait couper des doigts, eh bien le supérieur s'est mis à genoux et les a baisées avec vénération. Et le père Jacques a été accueilli chaleureusement par ses confrères, mais il se montrait réticent à raconter ce qu'il avait vécu. Il fallut presque un ordre formel pour qu'il se mette à en faire part. Il a rédigé aussi un précieux document sur sa captivité. Ah, il y a des textes absolument admirables, hein, sur la captivité du père Jacques. Ce sont des choses absolument inimaginables. Il écrit le 5 août 1643. Après être resté quelque temps dans la cabane où j'avais vécu assez paisiblement, je fus conduit dans une autre. C'était à la vérité celle de l'homme qui m'avait coupé le pouce et qui était ennemi déclaré des Algonquins, et par conséquent des Français. Là, je m'attendais, à chaque instant, à être frappé d'un coup de hache, et les autres Iroquois en étaient également persuadés. Ceux qui m'avaient fourni quelque chose pour que je sois quelque peu vêtu me le redemandaient désormais pour ne pas le perdre à ma mort. 2 mois se passèrent donc, depuis notre arrivée, dans ces craintes et ces continuels dangers qui me faisaient mourir chaque jour, ou plutôt mener une vie plus cruelle que toute mort. Aucune étude de la langue ne m'était possible. À quoi bon l'apprendre, puisqu'à chaque instant je pensais que j'allais mourir. En vérité, si dans des angoisses j'ai été pour beaucoup un objet d'étonnement, c'est que Dieu fut mon seul et sûr soutien, qui par sa généreuse bonté a relevé le courage de l'affligé. Je recourais pour me soutenir à la Sainte Écriture, à la Bible, mon unique refuge dans les tribulations qui me sont advenues à l'excès. Il cite les psaumes, psaume 45. Je la vénérais, ma Bible. C'est avec elle que je voulais mourir. Il se trouvait que de tous les livres que nous avions apportés pour servir aux Français habitants chez les Hurons, le seul qui était venu dans mes mains était l'épître de saint Paul aux Hébreux, paraphrasé par Monseigneur Antoine Godeau, évêque de Grasse. Je portais toujours ce livre sur moi, avec l'image de saint Bruno, fondateur de l'ordre très illustre des Chartreux, à laquelle étaient attachées des indulgences. J'y avais joint une croix que j'avais faite tant bien que mal avec du bois, et de la sorte partout où me surprendrait la mort, qui était toujours si présente à mes yeux, munie de la Sainte Écriture, qui m'avait toujours été d'une grande consolation, des dons et des indulgences de ma très sainte mère l'Église, que j'avais toujours beaucoup aimée, mais maintenant, avec une grande tendresse, munie aussi de la croix de mon Seigneur, je pourrais mourir très volontiers. Quel homme, hein? Alors, le père Jogues a donc été accueilli, puis il a raconté son histoire un peu, et son humilité fut mise à rude épreuve. Quand il s'est rendu à Paris, la reine Anne d'Autriche l'a rencontré, il l'entoura de grand respect. Le pape Urbain VIII fut lui-même mis au courant, et ce fut heureux pour le père Jogues. Il se demandait, puis pour encore dire la messe, avec ses mains mutilées, il manquait des doigts consacrés, hein, c'était à l'époque, il n'y avait que des doigts consacrés d'un prêtre qui pouvaient toucher aux saintes hosties consacrées au corps de Jésus. Il se demandait s'il pourrait encore dire la messe. Donc, il ne convient pas qu'un martyr du Christ ne puisse s'abreuver au sang du Christ, avait répondu le pape, en lui accordant immédiatement la permission de célébrer la messe. Il y avait tant de vénération autour de lui que le père Jacques se sentait gêné. Il désirait retourner au plus tôt en Nouvelle-France. Et 3 mois seulement après son retour en France, il revenait en mission. Quel courage! Il était si heureux qu'on aurait pu croire qu'il avait oublié les tortures qu'il avait subies. Et à son arrivée à Québec, la tension entre la Nouvelle-France et l'Iroquoisie avait diminué. Là, au mois d'août 1646, donc 4 ans après la fondation de Montréal, de Ville-Marie, du pourparler de paix était entamé, le père Jogues s'est rendu au lac Champlain en habit civil. Il n'a pas mis sa soutane. Et il fut un des principaux orateurs à la rencontre avec les Mohawks. Il alla ensuite à Osseonenon, où il avait été captif. C'était une visite préliminaire avant la fondation d'une mission placée sous le patronage de la Sainte Trinité. Il avait apporté une caisse. Vous savez ces caisses qui contiennent le calice et des ornements pour dire la messe. Il a confié cette caisse à sa tante, vous savez cette vieille Amérindienne, après en avoir montré le contenu aux Amérindiens. Et voici les dernières lignes que le père Jogues a écrites avant de se rendre en Iroquoisie. « Mon cœur me dit que si j'ai le bonheur d'être envoyé en mission, je vais y aller, mais je n'en reviendrai pas, je le sais. L'obéissance aux petites choses jour par jour m'a rendu plus facile de servir mon Créateur et mon Sauveur jusqu'au grand sacrifice qu'il peut me demander un jour. » Et là, le 24 septembre 1646, le père Jogues retourna en Iroquoisie avec le jeune Jean de Lalande. Ils furent reçus froidement des Mohawks, la figure bariolée, comme pour une expédition guerrière. Ils ont fait prisonnier, les traînèrent au village. La tante, la vieille Amérindienne, a expliqué au père Jogues ce qui était arrivé. Une calamité s'était abattue sur le pays, puis là, les sorciers disaient que c'était... Quoi, la boîte magique, avec le calice et les ornements, la boîte magique qui avait attiré le malheur sur la nation. Pauvres sorciers malheureux, hein? Pauvres Amérindiens. Et là, le père Jogues me s'est expliqué devant les chefs, qui se sont réunis ensuite en grand conseil à quelques kilomètres de Sermenon, mais les guerriers du clan de l'Ours ont décidé de se débarrasser du père Jogues et de Lalande. Avant que le grand conseil, évidemment, ne donne sa réponse. Là, ils ont invité le père Jogues à un repas, dans la longue hutte du clan de l'Ours, et le père Jogues, qui soupçonnait évidemment un piège, ne s'est rendu quand même à l'invitation, car il les aimait. Et il fut abattu d'un coup de tomahawk en entrant dans la tente. Il fut décapité, sa tête placée au bout d'un pieu. Et on a jeté le corps et la boîte magique dans la rivière voisine, et Jean de Lalande a été abattu et décapité le lendemain, en allant enterrer le corps du père Jogues, échoué sur la rive. Les deux têtes restèrent fixées au pieu pendant tout l'hiver. pendant tout l'hiver. Un an plus tard, l'homme qui avait tué Isaac Jog était baptisé sous le nom de Isaac. Dans sa dernière lettre, Isaac Jog dit « Hélas, mon très cher frère, mon très cher père, quand commencerai-je à servir et aimer celui qui n'a jamais commencé à nous aimer ? Et quand commencerai-je à me donner totalement celui qui s'est donné sans réserve ?» Quand il dit qu'il n'a jamais commencé à nous aimer, il veut dire qu'il n'a jamais commencé, il nous a toujours aimés de toute éternité, voilà. « Quoique je sois extrêmement misérable et que j'ai fait un mauvais usage des grâces que notre Seigneur m'a faites en ce pays, je ne perds pas courage, puisqu'il prend le soin de me rendre meilleur, me fournissant moi-même et de m'unir inséparablement à lui. » Et il dit à la fin, « Le cœur me dit que si j'ai le bien d'être employé, j'irai et je ne reviendrai pas, mais je serai heureux si notre Seigneur voulait achever le sacrifice où il l'a commencé, et que ce peu de sang que je répandis sur terre fut comme les arbres de celui que je lui donnerai de toutes les veines de mon corps et de mon cœur. Enfin, ce peuple-là est pour moi un époux de sang. Je me suis fiancé à lui par mon sang. » Il s'est fiancé aux Amérindiens. Il les aime. Et voilà que un des Hurons, Joseph Shiwanetinwa, a écrit une très belle prière après sa conversion. C'est la prière d'un chrétien huron du XVIIe siècle, peu avant son martyre aux mains des Iroquois. « Seigneur Dieu, enfin donc je te connais. À la bonne heure maintenant, je te connais. C'est toi qui as fait cette terre que voilà et ce ciel que voilà. Tu nous as fait, nous autres, qui sommes appelés hommes. Tout ainsi que nous autres sommes maîtres du canot que nous avons fait canot, et de la cabane que nous avons faite cabane. De même, toi, tu es maître, toi qui nous as créés. Extrêmement tu nous aimes. Enfin, maintenant, je me consacre à toi, moi que voici. Enfin, maintenant, je te connais, mon maître. Tu es principalement le maître de moi que voici. Ordonne seulement de moi que voici. N'importe que je souffre, je penserai seulement, il y avisera le maître absolu de moi que voici. Quelle belle prière. Il termine en disant, enfin, voilà que maintenant je crois. Et tout de bon. Il n'y a rien du tout dont je doute aucunement. Ces grands convertis amérindiens, mais il en existe aujourd'hui, et j'entendais l'autre jour à la télévision un diacre de Kanawake. Quel homme et sa femme, des chrétiens catholiques profondément convaincus. Les Iroquois, les Mohawks,